Bienvenue dans le podcast de la voix à la peinture. Dans cette première saison intitulée « Galeriste », je vous emmène à la rencontre de sept galeristes femmes. Je m'appelle Mathilde Guégan, je suis une peintresse engagée pour l'égalité. Mon but, partager ma passion, vous inviter à franchir la porte de ces galeries et nous rencontrer autour d'une œuvre engagée. Cet épisode est sponsorisé par le Bureau de Léa. Le Bureau de Léa est un cabinet de gestion spécialisé pour les créatifs et les artistes auteurs. Leur métier est de nous conseiller et de nous accompagner. Quand j'ai commencé en tant qu'artiste, les concepts entrepreneur individuel, micro-BNC, exonération de TVA, frais réels, cotisation URSSAF, cotisation IRSEC étaient des sujets que je ne maîtrisais pas. On m'a conseillé le Bureau de Léa et suite à un appel découverte, j'ai choisi de m'offrir un abonnement pour mon anniversaire. Je sais, c'est étrange, mais c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire, la possibilité de grandir dans mon métier. Je voulais augmenter mon impact et je sentais qu'avec mon petit fichier Excel et ma peur de mal faire, je n'irais pas bien loin. Depuis 2 ans, je suis passée aux frais réels et j'adore. J'ai découvert que je dépasse de loin les 34% d'abattement et cela me permet d'avoir un regard entrepreneurial sur mon activité. De plus, j'ai accès à un logiciel de gestion qui fait vraiment plus pro. Le plus important, c'est que Lucille me répond dès que j'ai une question. Par exemple, quand j'ai eu la brillante idée de chercher des sponsors pour ce podcast, une des premières questions que je me suis posée est « Ai-je le droit de recevoir des revenus de ce genre avec mon statut d'artiste-autrice ? Et si oui, comment dois-je les déclarer ?» C'est en posant la question à Emmanuel et Lucille que j'ai eu la joie de découvrir que oui, c'est tout à fait légal et qu'en plus, le Bureau de Léa souhaitait être les premières à me sponsoriser. Gérer son argent est un enjeu majeur pour les femmes, les artistes et les entrepreneuses. Être bien conseillé et se simplifier la tâche pour avancer est primordial. C'est pourquoi, si vous en avez le besoin, je vous recommande les services du Bureau de Léa, demandez un appel découverte et dites-leur que vous venez de ma part. Elles sauront qu'elles ont bien fait de soutenir ce projet. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Galeriste. Je suis enchantée de vous présenter aujourd'hui Lise de Quillac. Bonjour Lise.
Bonjour Mathilde, merci beaucoup de me recevoir.
Mais je t'en prie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu es la première personne que j'ai appelée quand j'ai eu l'idée de ce podcast Galeriste, de la voix à la peinture.
Oui, bah merci beaucoup de m'avoir contactée pour ce projet que j'ai tout de suite aimé dès que tu m'en as parlé. Parce que je suis animée comme toi par l'idée de mettre en avant des profils de personnes qui ont envie d'œuvrer dans le milieu de l'art et qui sont animées par des belles valeurs et un enthousiasme communicatif. Donc,
ta passion, je trouve que tu la transmets très bien. Donc pour nos éditeurs, je vais expliquer. Tu as un podcast qui s'appelle « Innover dans le monde de l'art » que tu as commencé à créer en 2022. Tu nous en parleras. Et pour la petite histoire, j'ai écouté une grande partie de tes podcasts cet été, en l'été 2024. Et je me suis aperçue que les épisodes qui me restaient vraiment en tête étaient ceux des galeristes que tu avais interviewés. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste, cette parole, elle est un peu rare, elle est un peu précieuse, elle est un peu lointaine, elle est un peu inaccessible. Et que c'était génial tout d'un coup d'avoir toutes ces femmes qui pouvaient expliquer leur travail, etc. Et avec du coup lesquelles en tant qu'artiste on pouvait se dire je raisonne en termes d'ADN ou pas, j'ai envie ou pas d'aller visiter la galerie de cette personne. Et donc c'est suite à ça que j'ai eu l'idée de faire mon propre podcast de la voix à la peinture et d'aller interviewer cette galeriste femme puis de les peindre. Et du coup c'est vrai que je t'ai appelée quand l'idée a germé et j'avais envie que tu me dises si tu étais d'accord ou pas que je marche dans tes pas, ce qui était un peu bizarre. Et puis comme tu as tout de suite accepté, j'ai eu envie de t'inviter dans cette sorte de hors-série pour vraiment témoigner du fait que ton travail que tu mènes depuis 2022, et donc là on est en 2025, c'est déjà sans doute ta quatrième saison, c'est beaucoup de travail de faire un podcast, donc tu vas nous parler de tout ça, et j'avais vraiment envie de témoigner publiquement du fait que l'énergie que tu as déployée, les rencontres que tu as créées, ça a créé une nouvelle idée, un nouveau projet, et donc ça participe à 100% à l'énergie dont les artistes se nourrissent sans cesse pour créer et pour apporter de la valeur dans la société. Donc voilà pourquoi tu es ici aujourd'hui.
Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis sur ce côté énergie, parce que j'ai vraiment envie de communiquer une énergie positive auprès des artistes. Tu mets vraiment des mots sur mes intentions, parce que je sais à quel point les métiers créatifs, en particulier le métier d'artiste, sont faits de montagnes russes émotionnelles et qu'on a besoin de choses aussi pour rester motivé tout au long du chemin. Et avoir dans ses oreilles l'interview d'une personne passionnée, qui a un enthousiasme communicatif, un professionnel du milieu de l'art, qui montre que voilà, y a des personnes bienveillantes aussi dans ce milieu, ça fait partie des boosters. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que tu le reçois.
Bah super, de toute façon,
de cette manière.
Y a pas mal des galeristes que je vais interviewer qui ont été interviewés dans ton podcast. Donc c'est aussi une manière de faire un up-to-date. Et donc je conseille de toute façon aux auditeurs d'aller voir ton podcast, d'écouter ton podcast, Innover dans le monde de l'art. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast un jour ?
Longue histoire. Je ne sais pas si je vous fais la version courte ou la version longue, mais j'ai fait une prépa littéraire avec option histoire de l'art. Après, j'ai fait une fac d'histoire de l'art en recherche. Donc, j'avais vraiment le parcours très académique, alors que je suis plutôt quelqu'un avec un esprit entrepreneur. Et ce que j'avais envie de faire, c'était mener des projets, donner vie à mes idées. Donc, c'est vrai que mon parcours n'était pas forcément en adéquation directement avec ce que je fais aujourd'hui, mis à part le côté histoire de l'art. Mais en fait, l'avantage de la fac, c'était que ça laissait aussi beaucoup de temps libre. Et c'était du temps où je me consacrais à mes idées, mes projets, je montais des associations. J'étais investie dans une association qui organisait des parcours de galeries. C'était à Rennes, où j'habitais à l'époque. Et donc, j'ai fini mes études d'histoire de l'art et c'était le Covid. Donc on m'avait dit, déjà qu'on me disait beaucoup, fais attention, c'est une filière très bouchée. Alors là, il faut se dire que tout était au point mort. Donc je me suis dit, ok, il va y avoir deux options. Soit j'attends que la situation se décante et que de nouveaux postes s'ouvrent, et en attendant, je fais autre chose, un job alimentaire qui n'a rien à voir. Soit en fait, je n'abandonne pas trop l'idée et j'essaye de continuer de nourrir mon rêve, mes ambitions. Et en parallèle de job trouvé à temps partiel, je persévère dans le milieu de l'art. Et franchement, ça a été une chance donc, d'être diplômée dans ce contexte, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je ferais un tout autre métier dans la culture. Peut-être que je serais médiatrice culturelle, mais je ne me serais peut-être pas autorisée à penser entrepreneuriat, ou en tout cas à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais rencontré en fait des artistes dans mon entourage et par mes projets, et je les conseillais assez spontanément sur la façon dont ils pourraient communiquer. Je leur faisais leur portfolio, je leur mettais leur portfolio à jour s'ils me le demandaient, je leur écrivais des textes parce que ce qu'ils faisaient m'inspirait. Et petit à petit, ils en ont parlé à leurs amis. Donc, des personnes que je connaissais pas sont venues me demander des services et des conseils. Et je me suis dit que je pouvais peut-être en faire un métier. Donc voilà, j'avais cette partie un peu entrepreneuriale. Mais j'avais toujours, je me disais, c'est juste temporaire, le temps de trouver un métier en galerie, par exemple. Mais je me suis rendu compte que le milieu de l'art était quand même très opaque. Toutes les options que je voyais, c'était médiatrice culturelle, assistante de galerie, mais je voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre, et je me disais, je manque vraiment de connaissances. Et quand je tapais sur Google comment fonctionne le marché de l'art, quels sont tous les métiers du marché de l'art, la liste était vraiment super restreinte par rapport à toutes les opportunités de choses qu'on peut y faire. Et je trouvais aussi que on comprenait pas trop comment ça marchait, comment ça se passait concrètement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je parle à des personnes qui bossaient dans le milieu de l'art pour en avoir le cœur net et savoir quelles étaient les coulisses. Et c'est comme ça que j'ai fait le podcast, parce que j'avais pas accès directement dans mon entourage à ces personnes. Et je me suis dit qu'un podcast, ça pouvait être une bonne façon de créer une approche, un lien, d'avoir une discussion de qualité. Et donc je l'ai vraiment fait pour moi, parce que j'avais besoin de réponses à mes questions, et je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas la seule à me poser ces questions-là.
Donc, écoute, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses qui résonnent. Moi aussi, j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne, Et pareillement, le côté académique me semblait... Enfin, moi, ça ne me convenait pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire dans la société actuelle, vivante, entrepreneuriale? Et donc, je me suis mise à travailler dans une librairie parce que c'était beaucoup plus concret et beaucoup plus... Et je travaillais aussi au musée d'Orsay, etc. Et vraiment, j'ai adoré quand j'ai pu travailler concrètement et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, tu expliques que tu as commencé avec le podcast, mais qu'aujourd'hui, tu as une activité entrepreneuriale autour de ça, c'est-à-dire que tu as une entreprise dans laquelle tu conseilles des artistes ou...
Oui, ça j'ai un statut d'auto-entrepreneur et en fait, je travaille en freelance pour une agence qui s'appelle Topo et qui accompagne des artistes. Franchement, c'est des accompagnements très larges sur la professionnalisation de leur activité, soit pour des personnes qui se lancent, soit pour des personnes plus établies pour travailler sur des projets plus spécifiques.
Oui, j'ai vu que tu étais formatrice là-bas et bah, moi, j'ai rencontré un des fondateurs au 59 Rivoli.
Pierrick,
et je l'ai interviewé récemment sur le compte Instagram Entre Artistes.
Ah oui, oui. Alors, donc, son interview, mais oui.
C'est ce dont je m'aperçois cette année particulièrement, alors que moi ça fait à peu près 8 ans que je suis artiste, c'est que là le milieu se resserre de plus en plus. C'est-à-dire, je commence à croiser de plus en plus des gens que j'ai connus ici, là, Cercle de l'Art, 59 Rivoli. Par ton podcast, par le podcast de machin, et ça commence à devenir un petit milieu.
À quel point qu'on se dit tout le temps que tout est lié.
Et en même temps, il y a encore, dans Paris, il y a énormément de galeries. En fait, là, pour créer ce podcast, on s'est intéressé un peu à toutes les galeries, ce qu'on pouvait inviter dedans, et on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc Paris est hyper dynamique. Alors je ne sais pas comment c'est à Rennes ou à Nantes. Je crois que tu es originaire de Nantes.
Oui, c'est ça, Nantes et Rennes, oui. Ouais. Alors comment ça se passe à Rennes et à Nantes? C'est vrai que Nantes, je n'y étais pas trop dans une période où j'étais vraiment très curieuse de l'art. Je sais qu'ils ont un super musée, ils ont Voyage à Nantes aussi, qui est une super programmation que je trouve très innovante.
Ils sont très dynamiques sur le plan artistique,
même
contemporain.
Les Machines de Lille, enfin voilà, c'est pas de l'art visuel comme ce dont je parle directement dans le podcast, mais c'est quand même un concept hors case. Assez incroyable. Et à Rennes, oui, il y a quelques galeries. En effet, moi, je travaillais pour une association qui s'appelait le Circuit des Têtes de l'Art et qui faisait justement un parcours tous les ans dans toutes les galeries, lieux d'expo, voire ateliers / galeries de Rennes. Et en faisant ça, on se rendait compte qu'il y a, quand même, il y en avait pas mal. C'est que des fois, on n'est pas au courant de tout ce qui existe.
C'est super, ouais. C'est un peu ce qu'on s'était dit qu'on pourrait faire avec aussi ce podcast, d'inviter les auditeurs à la fin de chaque épisode à quelques événements où on pourrait se rencontrer en vrai.
Oui, et en plus, ça s'inscrit dans une idée de démocratisation, parce que quand on n'a pas l'habitude de rentrer dans des galeries d'art, des fois, c'est plus facile d'y entrer avec une amie ou un groupe qui a l'habitude, on se sent plus légitime. Donc
tout
ça peut être sympa de
faire
ça.
C'est ce que les auditeurs commencent à dire. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de rentrer dans une galerie, c'est vrai que j'ai un peu peur. Et toi, est-ce que les gens te font ces retours aussi sur ton podcast? Ils te disent, grâce à vous...
Oui, alors...
Je suis allée dans voir telle ou telle personne.
Oui, il y a des personnes, donc le fait d'écouter l'interview, ça leur donne envie d'aller visiter la galerie. Et ce que j'ai envie de communiquer aussi, c'est... On a tous un imaginaire du galeriste ou de la galeriste, où on peut s'imaginer plein de choses différentes, mais des fois des choses qui ne collent pas à la réalité, comme par exemple quelqu'un de très froid, qui va vous toiser de haut en bas quand vous allez entrer pour vérifier si vous avez les vêtements qui reflètent votre porte-monnaie de collectionneur. Mais les galeristes peuvent aussi être des personnes très chaleureuses, très sympas, comme vous et moi. Je pense qu'il y a tous les profils. Hein. Même moi, en entrant en galerie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais j'ai vu aussi des personnes exceptionnelles, incroyables. Et des fois, c'est les mauvaises expériences que l'on retient. Donc, ce que j'ai envie de faire avec le podcast, c'est que les personnes rencontrent la personne qui est derrière le projet. Rencontrer vraiment l'humain derrière quelque chose.
Voilà, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans la manière dont tu abordes les entretiens. C'est que tu t'intéresses vraiment au parcours de la personne, à pourquoi elle a commencé ce travail, plus que qu'est-ce que vous faites comme travail.
Oui, le pourquoi, ça m'anime. Pourquoi on fait ça? Enfin, quand on se rend compte des projets que les personnes lancent, ça prend tellement de place, on se réveille tous les matins pour un projet, c'est quelque chose de fort. Et donc se demander, alors pourquoi toi tu œuvres pour ça et pas pour autre chose, enfin, quel est ton moteur ? Et souvent, ça remonte à l'enfance. Enfin, et on se retrouve à remonter comme ça le fil et ça devient une aventure humaine plus qu'un projet entrepreneurial.
Ouais, tout à fait. T'as plein de petites questions sympas que tu poses à tes auditeurs à la fin.
Oui.
Enfin, aux gens que tu interviews. Et donc aujourd'hui, le podcast, c'est la 4e saison. Les derniers épisodes sont en anglais, si j'ai bien compris, à New York. Enfin, oui. Réalisés à New York. C'est une évolution temporaire, c'est suite à un de tes voyages, comment ça...
Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, je n'aime pas trop avoir des limites quand tout est trop limité. Et je me suis dit à un moment, pourquoi me limiter à la langue française ? Parce que même à Paris, je connais des artistes qui ont des messages super inspirants à faire passer, mais qui sont non francophones. Et je me disais, c'est trop triste de ne pas pouvoir leur donner la parole. Donc je me suis dit, franchement, certes, je ne suis pas bilingue, certes, je n'ai jamais vécu à l'étranger dans ma vie, mais quand même, je me débrouille un petit peu. Il y a peut-être des fautes de grammaire, mais l'important, c'est que l'on comprenne le message, et l'important, c'est aussi la voix de mon invité. Au final, mon invité parle à 90% et moi à 10%, donc c'est pas grave si de mon côté,
tout
c'est pas
fait,
parfait.
Mais on voit que t'es quand même très à l'aise dans l'exercice inversé. Est-ce que tu as déjà enregistré un podcast ?
Une fois. Enfin, de l'autre, passer de l'autre côté du micro, une fois, oui. Mais tu me mets très à l'aise. Donc...
C'est gentil. Tu veux dire aux auditeurs quel était ce podcast, s'ils ont envie de l'écouter ? Est-ce qu'il est toujours en ligne ?
Oui, c'est un épisode du Clo-Clo Club, qui est un super podcast sur la créativité. Et donc, j'étais passée dedans il y a un an et demi, mais du coup, c'est sympa aussi parce que... Peut-être de comparer les deux, peut-être que j'ai des pensées qui ont évolué entre-temps.
Ah bah, il y aura sûrement, de toute façon, un up-to-date depuis un an et demi. Donc, on peut continuer à écouter tes podcasts. Tu vas continuer cette aventure pendant longtemps ? Tu as déjà prévu quelque chose par rapport à ça ou tu avances au fur et à mesure ?
Alors, quand j'ai créé le podcast, quand j'ai vraiment eu l'idée de le faire, je me suis dit, OK, dans mes objectifs prochains, l'objectif, c'est de faire ce podcast et de m'y tenir au moins 3 ans. Parce que je pense qu'avant 3 ans, on ne peut pas se dire « Non, mais ça ne marche pas. »
Hyper intéressant.
Et puis en fait, même 3 ans, je trouve que c'est même pas assez. En fait, je pense qu'il faut juste ne jamais abandonner si quelque chose nous tient vraiment à cœur. Donc je me suis dit « Allez, je le fais pendant au moins 3 ans. » Donc au début, j'ai commencé avec 2 épisodes par mois, ce qui est un rythme quand même assez soutenu. Mmh. Après, avec l'évolution aussi du travail à côté... Des fois, j'ai un petit peu plus espacé les épisodes, mais l'important, c'était de toujours continuer. Et je me rends compte que dans les phases où je ne faisais pas d'épisodes, j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et je me disais, oh, je me sens un peu moins épanouie en ce moment. Et puis là, je regarde mon calendrier et puis je me dis, mais ça fait presque 2 mois que tu n'as pas sorti d'épisode. Mais c'est pour ça, en fait. Il manque quelque chose qui me nourrit. Donc maintenant, c'est très clair pour moi que ça fait vraiment partie des choses qui m'épanouissent tant dans la rencontre de l'interview en elle-même que dans le fait de le partager ensuite. Et donc, je me dis en fait qu'il ne faut vraiment pas que j'arrête et que je fasse ça tout le temps. Enfin, ça fait partie. C'est comme
hyper
créer pour des artistes.
Et du coup, comment tu as choisi... Alors, ta première interview, c'était Anne Listern.
Oui.
2022. C'était, comment tu as choisi au fur et à mesure les gens comment tu guides ça?
J'essaye de me souvenir comment j'étais tombée sur leur profil, mais alors j'avais mes 2 premières interviews, c'était Anne Listern et Marie-Stéphanie Servos du média Femme d'art. Femme d'art, j'ai dû tomber dessus avec Instagram, je pense. Après, il y a eu un peu, je pense, un effet de bouche à oreille avec des personnes qui me disaient « Ah, tu veux faire ce podcast ?» Mais je connais un tel, qui a ce tel projet.
On a eu la même chose pour galeristes. Voilà. Du coup, il y a des galeristes que je ne connais pas personnellement, mais qu'on m'a conseillé, qui ont répondu à l'invitation. Et c'est vrai que quand on lance un projet, finalement, les autres nous apportent beaucoup d'informations.
Ouais, vraiment bouche à oreille. Et je pense que le podcast aussi s'est fait connaître par le bouche à oreille. Moi, je crois beaucoup plus en ce pouvoir-là qu'en le pouvoir des réseaux sociaux même. Je pense que... On peut s'acharner à fond à faire connaître quelque chose ou à faire des recherches par Internet et par les réseaux sociaux. Mais que ce soit pour les découvertes ou pour le partage, il n'y a rien de mieux que de rencontrer les personnes et demander des recommandations.
Voilà, parce qu'un podcast, c'est un enregistrement, mais c'est surtout une rencontre humaine où on se voit en vrai dans un lieu physique.
Oui, c'est voilà. Ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Voilà, avant, je faisais un petit peu en distance, mais maintenant, je trouve qu'en physique, c'est quand même plus sympa.
Et ça t'a ouvert des opportunités en tant qu'entrepreneuse dans le milieu de l'art ?
Oui, ça m'a ouvert à quelques partenariats. Oui. Ça a fait connaître aussi mes activités, ça a activé aussi du bouche à oreille. Et puis surtout, ça permet d'être connectée à quelqu'un et de nourrir mon réseau. Quoi.
C'est... Oui, c'était très beau ce que tu as dit, de nourrir ma motivation, ma passion.
Oui.
Et alors aujourd'hui, moi j'ai lu un article sur toi dans La Perle, donc on peut aussi lire des informations sur toi. Et aujourd'hui, tu travailles avec Axel Delorme.
Oui.
Et vous avez fondé, vous co-organisez ce que vous appelez des Art Datings.
Oui.
Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ?
Avec plaisir. Donc Axel, c'est vraiment mon acolyte. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Dans la sérendipité des vernissages et ça a vraiment été un coup de foudre professionnel et puis au fur et à mesure c'est devenu une très belle amitié et donc on travaille ensemble de plus en plus et ensemble on a cofondé les Art Dating. On avait envie de créer un projet commun qui corresponde à notre vision du milieu de l'art, qui soit un peu à notre image, de la façon dont on aimerait que les soirées artistiques se passent. Et on a commencé par une soirée qui était une soirée networking, où on avait coaché des artistes à pitcher leur démarche artistique. Ça partait en fait de notre métier d'accompagnement auprès des artistes. Et la soirée était un peu comme la mise en pratique de ce qu'on avait appris, parce que avoir un pitch, c'est très bien, mais en vrai,
l'exercer,
voilà. on progresse pas. Donc on a réuni après plein de personnes de notre réseau à cette soirée-là, qui était une soirée/expo. Et le but, c'était... qu'ils rencontrent un maximum d'artistes qui leur parlent de ce qu'ils font. J'avoue, on a un peu flippé 10 minutes avant le début, parce qu'on s'est dit, là, on invite plein d'inconnus, il va falloir qu'ils se parlent. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu utopiste ? Et en fait, ça s'est très bien passé. Il y avait une énergie positive. Moi, j'adore parler aux inconnus, je suis animée par les rencontres, et de voir que ça pouvait toujours se faire, c'était cool.
Est-ce qu'il y avait des œuvres d'art d'exposées ou pas ?
Oui, il y avait les œuvres à côté. Chaque artiste avait amené 2 œuvres, un peu à titre d'échantillon, pour quand même illustrer.
Okay.
Donc au début, on était vraiment sur un format comme ça, avec une 50aine de personnes. Et après, on a eu envie de quelque chose de plus intimiste.
Plus intimiste.
Voilà. Et on est parti sur l'idée de dîner avec une 15aine de personnes, de convives. Et une artiste, ou un artiste, mais pour l'instant nous n'avons que des artistes femmes, mais ça n'est pas forcément un parti pris volontaire.
Oui, c'est... fait partie des questions que je t'aurais posées.
Oui, au gré des rencontres, vraiment.
Au gré des rencontres qui, pour l'instant, t'emmènent plutôt sur des artistes femmes.
Voilà.
Et d'ailleurs, dans ton podcast aussi, il y a beaucoup, beaucoup de femmes.
Oui, c'est vrai. Mais oui,
il y a des hommes, mais il y a quand même sans doute une majorité de femmes.
C'est ça. C'est pas forcément par idée de revendication, mais... Bon, la vie fait que j'ai des matchs plus féminins.
Non, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est... Moi, de base, je travaille sur la mixité et du coup, je m'interroge moi-même sur pourquoi j'en suis arrivée en fait à être que dans un milieu d'artistes femmes. Et c'est des vraies questions que j'aime bien poser.
Oui, oui, oui. Non, du coup, c'est pas forcément...
Est-ce que c'est nous qui choisissons ou c'est aussi la société qui choisit pour nous et qui nous propose aujourd'hui des modèles de plus en plus en non-mixité ?
Oui. Franchement,
alors personne n'a la réponse, mais c'est simplement des questions que je pose.
Oui, c'est une vraie question. Après, moi, j'aime bien laisser la place quand même à tout le monde et je m'intéresse plus à l'humain qu'au genre. Mais
si, ça, bien sûr.
C'est oui.
En fait, ta démarche n'est pas de choisir par genre, mais si on regarde statistiquement le nombre de personnes que tu as interviewées, etc., on aurait plus de femmes que d'hommes. Je me trompe pas.
Ah oui, complètement. Voilà.
Donc c'est juste une question ouverte, hein. Il n'y a pas de réponse à trouver parce que je ne l'ai pas encore trouvée personnellement.
Ouais.
Mais c'est simplement observer aussi dans quel monde professionnel on évolue.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, moi je me sens quand même souvent plus à l'aise entourée de femmes. Ça, c'est réel, mais il y a toujours les exceptions qui ne confirment pas la règle.
Tout à fait.
D'ailleurs, j'ai failli faire un art dating avec un artiste homme avec qui j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le travail, pour l'humain. Ça ne s'est pas fait au niveau des dates, mais on a failli faire une exception.
Alors tous les artistes doivent se demander comment tu choisis les artistes avec qui tu as envie de travailler. C'est tes clients ou c'est juste des gens, tu as envie de travailler avec eux, boum, tu les appelles?
Oui, non, c'est pas du tout une condition que l'on travaille ensemble pour faire ça. Il y a des artistes avec qui j'avais déjà travaillé et donc c'est vrai que du coup, c'est aussi comme ça que l'on se connaît.
Ça t'amène à bien connaître leur travail.
Voilà, c'est ça, mais c'est pas du tout une condition. C'est plus des personnes que j'ai rencontrées et souvent c'est une relation long terme et on est contente de chapeauter, un peu de couronner tout ça d'un événement ensemble. J'ai autant d'idées d'événements qu'il n'y a d'artistes que je connais dans mon réseau, et si je pouvais faire un événement par semaine pour tous les artistes talentueux et talentueuses que je connais, ce serait génial. Pour l'instant, on en fait un tous les 3 mois, donc il faut choisir dans le... Enfin, à peu près. Il faut choisir dans ce réseau, mais
d'accord. Je choisis tous les 3 mois. C'est vrai que c'est très, c'est pas, ça fait pas beaucoup. Ça fait 4 événements par an.
Ouais, c'est ça. Donc d'accord. C'est un peu foussant. Il y a plein d'autres personnes avec qui je voudrais faire des choses, mais
en fait,
t'aimerais
bien
ça
en faire
plus,
mais s'il y a pas de modèle économique, c'est pas possible d'en faire plus.
Voilà, c'est ça. Et puis il faut aussi faire connaître le concept, donc avoir les personnes qui viennent. Donc
c'est un gros travail de toute façon. De mobiliser une communauté et faire un événement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se rapproche finalement beaucoup du travail de galeriste. Y a des galeristes, par exemple, qui organisent des soirées comme ça, mais au sein de leur galerie. Donc là, tu te retrouves un peu dans ce rôle. Et j'avais lu dans l'article dans La Perle que tu avais essayé d'ouvrir une petite galerie d'art contemporain dans un château nantais.
Oui.
Donc on voit que c'est quand même une démarche où tu réfléchis finalement à comment faire un peu le travail de galeriste, mais sans peut-être la contrainte du lieu physique de galerie, ou peut-être parce que tu aimes l'innovation et donc de manière différente, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'innover dans le monde de l'art est né aussi, pour se dire, on parle beaucoup du modèle de la galerie pour avoir un impact dans le marché de l'art, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi un acteur du marché de l'art sans pour autant être le galeriste ou la galeriste selon les normes qu'on imagine, donc le pignon sur rue, tous les codes et les conventions qu'il y a, et qui aussi des fois peuvent être remis en question parce que ça peut desservir les artistes, ça peut desservir les galeristes aussi au niveau du modèle. Donc se dire peut-être qu'il y a d'autres manières de faire aussi. C'est comme le métier d'agent d'artiste, il y a tellement de façons de pratiquer de ce métier, enfin autant qu'il n'y a d'agent d'artiste.
Oui, tu pourrais te définir comme agent d'artiste, mais tu le fais pas.
Oui, je crois que j'aime pas trop être dans une case au final, c'est peut-être ça. Mais oui, je suis un peu à la croisée des chemins. Je me considère comme une organisatrice d'événements artistiques, mais c'est vrai qu'il y a une petite casquette d'agent d'artiste / galeriste qui se met en place. Parce qu'il y a l'idée de vendre le travail de l'artiste et l'idée de leur trouver des opportunités, que ce soit les artistes avec qui je travaille, les artistes qu'on expose au art dating ou les artistes de mon réseau. Je garde toujours un œil à l'affût d'opportunités à leur proposer par mon réseau. Donc c'est un peu à la croisée des chemins.
Ok. Ce qui t'amène à faire des très belles rencontres. Un des derniers événements que vous avez organisé, c'est dans l'ancien atelier d'Armand.
Oui,
on a eu beaucoup de chance. Un très beau lieu à Paris. J'ai croisé Julia et Teddy, avec qui vous avez fait ça. Ça avait l'air d'être un très bel événement. Donc les auditeurs peuvent regarder sur votre compte Instagram, il y a des photos. Dans un très très beau lieu. Vous aviez exposé avant Mathilde Polidori.
Oui.
C'est aussi des partenariats avec des lieux, avec des restaurants.
Oui, on nous demande souvent comment trouver les lieux. Ouais. On a 2 lieux partenaires. Donc on a le Off Paris Seine, qui est un hôtel 4 étoiles sur une péniche Quai d'Austerlitz. Et eux, comment on les avait trouvés? Un an avant notre premier événement là-bas, on avait envoyé un mail de prospection pour un partenariat de lieu à un hôtel. Et cet hôtel faisait partie du même groupe que le Off Paris Seine. Et donc, un an plus tard, ils nous ont dit, comme quoi, des fois, on n'a pas de réponse.
Hyper intéressant.
Voilà, c'est message d'espoir. Des fois, on n'a pas de réponse directement, mais ils nous avaient gardé notre mail sous le coude. Et
d'où l'intérêt de faire un projet plus d'une année aussi, sur 3-4 ans, le temps d'avoir les retours de ce qu'on a semé, quoi.
Et voilà, et ne pas hésiter à planter beaucoup de graines, parce que... À un moment, ça peut germer plus tard qu'on imagine.
Et donc, eux, ils vous prêtent le lieu, ils vous mettent à disposition. C'est-à-dire qu'ils ont une appétence vers l'art. Est-ce que c'est fait partie des valeurs de leur entreprise? Est-ce que tu sais quelles sont leurs motivations?
Oui, eux, ce qu'ils voulaient, c'est quelque chose dans leur programmation qui soit un petit peu artistique et qu'ils n'avaient pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de lieux qui sont à la recherche de ça, qui ont des concerts, qui ont des activités qui peuvent être assez répandues. Mais ils se disent que pour leur image de marque, pour leur clientèle, ce serait sympa d'avoir une petite touche art contemporain, mais ils ne trouvent pas toujours les personnes pour leur apporter ça. Donc là, le deal avec eux, en toute transparence, c'est qu'ils nous prêtent une salle qui normalement est louée pour privatisation. Et donc on a vraiment une salle que pour nous, on n'est pas dans le restaurant mélangé avec tous les clients. Donc on a le côté intimiste et on, après voilà, on commande sur la carte de leur resto comme dans un resto normal, et on fait un menu en fait global de choses à partager pour tout le monde. Et pour l'atelier, l'ancien atelier d'Armand, cet appartement, c'était une collectionneuse d'art que l'on avait rencontrée au vernissage de Julia et Teddy. Elles se connaissent toutes les deux. La personne avait un tableau de Julia. Et donc, elle nous a proposé très gentiment de nous prêter son appartement pour faire une exposition de Julia.
Et c'est vrai que les photos sont magnifiques. Ça fait très magazine de mode. Enfin,
c'était dans des magazines déco, magazines. Ouais.
Et du coup, les œuvres sont très bien mises en valeur dans cet environnement.
Oui, et là aussi, c'est là que c'est intéressant de faire des choses différentes de la galerie classique aussi, parce que les personnes ont beaucoup apprécié que ce soit mis en situation dans un appartement. Mmh. Un peu comme on voit à Private Choice, par exemple, que je trouve une super initiative. Et non seulement on se sent comme à la maison, donc on est beaucoup plus détendu que si on nous met, comme l'environnement a de l'impact sur comment on se sent, on est beaucoup plus détendu dans un appartement privé que si on nous met dans une galerie White Cube avec des spots de lumière blanche. Forcément, c'est un impact. On se sent moins détendu. Si on nous met dans un petit endroit avec des boiseries, un canapé, limite, on sent qu'on est chez quelqu'un, on se sent détendu et donc on est peut-être un peu plus contemplatif aussi face au travail.
Oui, c'est une autre expérience, ça n'a rien à voir. En plus, là, il y avait tout un programme d'activités, des rencontres avec l'artiste, une séance de méditation.
Oui, on avait fait un brunch et on a commencé par une séance de méditation guidée par Charlène Delaville, qui est hypnothérapeute et qui fait des super expériences où elle nous plonge à l'intérieur des tableaux par la méditation. Et c'était trop bien de commencer par un temps de méditation, parce qu'il y en a peut-être qui ont couru après le métro pour ne pas être en retard. Enfin, chacun arrive dans son état différent. Mm. Et on a commencé par ce petit temps calme de 10 minutes. Après, on était tous super zen, on était tous beaucoup plus ouverts à la rencontre. Et surtout, on a fixé une œuvre de Julia pendant 10 minutes. Et c'est rare de le faire, donc c'était au service de la valorisation.
De le faire en groupe, en plus, c'est très, oui, très intéressant. Et il y a une dernière chose que j'ai remarqué sur votre communication, c'est que vous utilisez le mot esthète et pas le mot collectionneur. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Oui, parce que collectionneur... On peut avoir de l'art chez soi, mais ne pas se sentir collectionneur. Par exemple, moi, j'ai quelques œuvres d'art, mais je ne me considère pas du tout comme collectionneuse. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, c'est parce qu'on a un imaginaire derrière ce mot où on se dit, forcément, il faut être blindé pour être collectionneur. Forcément, il faut avoir des œuvres à plus de 1000 euros, avoir 50 tableaux, enfin à partir de combien de tableaux.
J'avoue qu'il y a beaucoup de gens dans mon réseau qui m'ont dit en fait c'est quoi collectionneur. Ils voulaient m'acheter quelque chose mais ils comprenaient pas ce mot, et j'ai dit c'est un mot qui vient de l'art.
À partir de quand on est collectionneur? Je pense qu'on peut être collectionneur à partir de son premier achat d'œuvre d'art, même si c'est une lithographie à 50 euros. Mais bon, comme beaucoup de personnes du coup ne se reconnaissent pas dans ce terme, on s'est dit qu'on allait faire aussi un terme qui englobe tout le monde, y compris les futurs primo collectionneurs. Donc quelque chose de plus inclusif, on peut être quelqu'un de curieux, quelqu'un qui achète de l'art, quelqu'un
Donc c'est ta définition du mot esthète, c'est quelqu'un de curieux.
C'est toutes les personnes qui peuvent plus ou moins être sensibles à l'art. Je me dis que j'aime bien quand les choses sont mises sur un pied d'égalité et pas faire de hiérarchie entre le curieux, l'amateur, le collectionneur.
Tout à fait.
Et donc esthète, ça englobe tout le monde, parce que pour moi, pour aimer les arts visuels, par exemple, en l'occurrence, il faut juste avoir le sens de la vision et une petite sensibilité, mais on a tous de la sensibilité, plus ou moins accrue ou développée. Et donc à partir du moment où on voit des choses et que ça nous fait ressentir un minimum d'émotion ou même de réflexion, pour moi, on est quelqu'un d'esthète.
Très jolie définition. Alors moi, j'ai regardé celle du Larousse.
Oui, alors je suis curieuse, je n'ai même pas
regardé. Plus scolairement, et je trouve que c'était très intéressant, puisque eux, ils disent c'est une personne qui considère l'art comme une valeur essentielle. Et du coup, vu qu'il y a eu le Covid et qu'on a dû classifier qu'est-ce qui était des commerces essentiels, pas essentiels dans la vie des gens, je trouve que cette notion de est-ce que c'est essentiel ou pas l'art était assez intéressante.
Belle mise en regard avec l'actualité.
Et avec le fait que tu as commencé aussi ce projet durant le Covid.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est très marrant qu'il me parle d'essentiel dedans.
Du coup, pour toi aujourd'hui, quelle est ta vision du marché de l'art, de ton activité? Est-ce que tu pressens des changements importants? Moi, personnellement, je vois que vous êtes nombreuses, alors je dis ça au féminin parce que j'en vois plus au féminin, à chercher des nouveaux modèles de vente des arts, ou du moins de rencontres entre des esthètes et les œuvres produites. Donc toi, quelles sont tes impressions sur l'évolution du marché de l'art et ce qui va se passer peut-être demain?
Alors déjà, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une multiplication des acteurs. Donc on n'a plus quelques galeries qui ont le monopole, mais plein d'initiatives plus ou moins grandes, certaines qui vont plus ou moins grandir. Donc on est de plus en plus d'acteurs. Et il y a aussi, dans le monde de l'art, il y a des mondes de l'art. Et tu disais tout à l'heure qu'on se recroise beaucoup. Mais en fait, on a l'impression de revoir un peu des fois tout le temps les mêmes personnes, mais parce qu'on a décidé de se positionner dans un écosystème artistique.
Et je pense qu'il y a d'autres cercles qui fonctionnent un peu de la même manière. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de créer des intersections entre ces cercles.
Voilà, c'est ça. Et puis d'autres cercles aussi qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Et des fois, on ne va pas forcément être amené à se côtoyer, à se croiser. Et puis, ce n'est pas grave, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Mais on est beaucoup plus d'acteurs. Et je pense que dans l'écosystème dans lequel on est, on a décidé aussi de ne pas se mettre en concurrence. Qu'il n'y a pas cette idée de se faire la guerre entre galeristes ou entre personnes du style « le plus fort vaincra et va écraser tous les autres ». Il y a plus dans les personnes qui m'entourent, il y a plus un côté « on a envie que les choses aillent dans la même direction ». Donc au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de se soutenir pour que notre vision prenne vie et que peut-être que cette vision qui est minoritaire devienne aussi majoritaire. Et c'est comme ça qu'on pourra faire une transformation un peu plus globale du milieu de l'art.
Ok, génial, vous visez la transformation.
Pleine d'optimisme.
Galeries, quand je te l'ai présenté, tu as dit un peu au début de l'entretien pourquoi tu as accepté. Est-ce que tu as déjà vu des projets similaires, des projets qui mêlent un podcast et de la peinture, donc la voix à la peinture? Est-ce que, à quoi ça t'a fait penser comme autre initiative que tu pourrais connaître?
Je trouve ça quand même plutôt innovant ce que tu fais, parce que non, franchement, ça va aussi dans l'idée de décloisonner les arts. Comme je te disais, je déteste les cases, et c'est pas parce que tu es artiste que tu ne peux pas faire de podcast. Et ce que je trouve bien, c'est que t'es pas artiste / podcasteuse. C'est que le podcast, tu l'intègres directement à ton projet artistique. Enfin, les deux fusionnent et l'un n'existe pas sans l'autre d'une certaine manière. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que je vois que toi aussi, tu essayes d'innover dans le monde de l'art en te disant comment je peux donner une valeur ajoutée aussi à ma fresque, comment je peux aller à ma fresque. Enfin, c'est pas une fresque, mais je me reprends.
Ce sera un grand format.
Enfin, c'est un grand format, ouais. C'est pour ça que j'ai
C'est parce que, mais j'ai pas trop communiqué sur le résultat, en fait.
D'accord, je spoile pas, j'espère.
Non, du coup, pas du tout. J'ai promis de faire une grande peinture dans laquelle j'arrive à caser cette femme, cette portrait de femme, mais je me suis engagée sur rien par rapport aux couleurs, à la manière de peindre, etc. Et moi, ça fait partie aussi d'une démarche où je me dis... la forme, finalement, c'est pas ce qui passionne le plus le grand public, mais c'est aussi le fond, c'est qui on représente, est-ce que les personnes connaissent les gens qu'on représente, etc. Donc là, faire tout ce travail de médiation sur qui vont être les femmes représentées dans la peinture me semble être aussi un pas de médiation et de rencontre vers les futurs... personnes qui vont regarder cette toile et qui connaîtront chacune des personnes, leur histoire, etc.
Et je trouve que ça va même plus loin parce que ça interroge aussi ce qu'est l'art du portrait. Parce qu'un portrait, on s'imagine que c'est juste montrer l'enveloppe physique de la personne. Mais selon son approche, il y a l'idée aussi que le portrait reflète aussi l'âme, d'une certaine manière, de la personne. Et ça, on peut le faire qu'en rencontrant la personne, en ayant des échanges sur qui elle est par essence. Et donc, ça fait partie, j'imagine, de ton processus créatif.
Ce que tu dis me fait penser à des œuvres de Boltanski où il y a de la voix. Tu sais, on passe, et puis dans ces expositions, notamment, j'avais vu à Beaubourg, et il y a des voix qui nous parlent, et qui nous parlent finalement de la même chose que ce qu'on regarde.
Mmh. Oui, c'est ça, ça se mêle, ça se marie.
Là-dessus, si on parle là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de montrer des œuvres où on peut écouter, alors c'est des petits dispositifs souvent où on peut écouter en même temps. Là, c'est dans un temps séparé, c'est-à-dire que je ne vais pas amener... il n'y aura pas de casque audio quand je présenterai l'œuvre. Ça peut être des choses à imaginer après.
Oui, et puis du coup, juste, on est dans ton processus créatif. Parce que ça, c'est la partie... Moi, je dis toujours que dans une œuvre, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et si toi, dans ton processus créatif de portrait, il y a l'idée de la rencontre avec la personne, c'est une partie invisible et donc tu la rends visible en partageant les interviews.
C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, il y a une évolution entre... j'en parlais dans le numéro d'introduction où j'explique que c'était vers 2022. J'ai fait un portrait de 7 rappeuses. Et je ne les avais pas rencontrées en vrai. J'avais écouté leur voix dans les podcasts, donc j'avais l'impression de les connaître. J'ai utilisé les images d'elles que je pouvais et ensuite, je les ai contactées. Et après, j'ai commencé à inviter des personnes dans mon atelier pour poser en vrai. Et je peins très différemment, en fait, quand je peins d'après photo ou quand je peins d'après l'observation du réel. Et c'est des moments qu'on partage ensemble, c'est des moments vraiment géniaux. Et donc là, j'ai une galerie, j'ai une collection de je sais pas, 5, je crois, personnes qui sont venues poser dans mon atelier. Et donc, je pense qu'en fait, il y a une transition qui s'est faite de manière hyper naturelle vers ce futur projet qui va du coup mêler les deux, parce que les galeries, je vais les peindre d'après photo, puisque je m'autorise pas encore à les inviter à venir poser ici, ce qui serait pourtant intéressant. Mais voilà, là je suis un peu dans un entre-deux.
Je vois. Et en quoi tu trouvais que c'était différent ta façon de les peindre quand tu les voyais juste sur des photos et quand tu les rencontrais ?
Ah, plastiquement, je te montrerai les deux, tu verras la différence, elle est visuelle.
Ok, d'accord. Okay.
C'est la manière de peindre n'est pas la même.
Ok. Non, mais c'est super intéressant de ça. Enfin, c'est un vrai parti pris sur l'art du portrait. T'arrives pas du tout au même résultat, alors qu'on pourrait croire que ça ne change rien.
Ouais, ça change. Pour moi, ça change tout. Enfin, le trait n'est pas du tout le même. Après, c'est peut-être moi qui le vois, mais bon.
C'est que ça n'aurait pas été pareil.
Est-ce que toi, tu t'intéresses à l'art engagé aujourd'hui ? Je veux dire vraiment que des artistes aient des engagements sur. Ça peut être le développement durable, ça peut être. Comme moi, l'égalité femmes-hommes ou d'autres sujets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu le vois de loin ?
Évidemment, ça m'intéresse, mais disons que ce n'est pas le cœur de mon positionnement ou le cœur de... je ne choisis pas des artistes que par rapport à ça. Je pense que je suis aussi quelqu'un qui va rechercher peut-être plus le réconfort des œuvres qui vont parler de la joie, parler... de la beauté de la nature, et on en parlait d'ailleurs avec Axel Delorme, qui elle connaît très bien tout ce qui est art et écologie, et on disait aussi que c'est une autre façon de sensibiliser par la beauté. Montrer par exemple à quel point la nature est belle, c'est un sentiment positif, mais en même temps ça nous donne envie de préserver ça, mais sans directement pointer du doigt le problème. Parler de la joie, montrer des choses... joyeuse. Je regarde ton œuvre qui est là et qui, je trouve, a des couleurs très joyeuses quand je dis ça. C'est une façon de se rappeler aussi qu'il y a tous ces sentiments positifs qui existent et donc, par opposition, d'essayer de chasser les choses qui peuvent entraver cet état-là. Donc, moi, je vais plus vers l'art qui fait du bien que l'art qui donne des électrochocs, même si je le trouve nécessaire et c'est un super... moyen de communiquer justement sur ce qui ne va pas, des fois.
Et du coup, sur ce qui ne va pas, est-ce que tu observes des choses qui ne vont pas ou qui vont bien en tant que femme dans le milieu de l'art ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. J'ai vu Marie-Odile Fallet, qui est créatrice de contenu dans l'art, qui disait « Tiens, il n'y a pas eu de Me Too Time dans le milieu de l'art. » Il y a des secteurs... qui ont eu leur MeToo.
C'est vrai.
Mais dans l'art, on a tous entendu des petites choses sortir aussi dernièrement dans Mediapart, par exemple. C'est des choses qui vont très vite être étouffées. Et puis je pense que comme c'est un tout petit milieu, je pense que c'est un petit peu délicat. On n'a pas envie de se sentir exclu de ce milieu en dénonçant, par exemple, ou en refusant des choses. Donc heureusement, moi, j'en ai jamais fait les frais. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses sous le tapis. C'est aussi une force, des fois il y a le versant négatif, mais le versant positif, des fois c'est une force aussi d'être une femme. Moi j'entends, ouais, j'ai la chance, je suis contente d'être une femme malgré tous les inconvénients, parce que je me sens créative, je peux même m'habiller de façon quand même un peu plus libre et créative, de façon plus assumée. Donc je pense que quand on est dans un milieu créatif, c'est bien d'avoir cet esprit créatif, cette ouverture aux émotions aussi, parce que l'art, c'est quand même quelque chose qui passe beaucoup par les émotions. Et si on est un homme conditionné qui n'a pas ouvert son cœur, bah, c'est quand même compliqué d'entrer en communion avec les œuvres d'art, où on a un autre regard et une autre approche. Mais en termes d'opportunités, après, c'est vrai que, comme je te disais au début du podcast, je suis beaucoup entourée de femmes, je collabore beaucoup avec des femmes. Peut-être que si demain j'essayais de travailler avec des institutions qui sont plutôt dirigées par des hommes, ça se passerait un petit peu différemment. Donc peut-être que naturellement, je
m'oriente. Et ce que tu décris, c'est ce que tu recherches aussi, ce que tu décrivais, c'est quelque chose de très sororal entre femmes, de pas de compétition, de pas se voir les unes les autres comme celles qui veulent écraser les autres. Enfin, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, oui, oui. Et en plus, je le fais même pas en conscience de me dire ah, c'est de la sororité. Mais je pense que la vie professionnelle prend suffisamment de place dans notre vie pour s'entourer de gens avec qui ça ne matche pas. Et il y a tellement de personnes avec qui on peut bien s'entendre que pourquoi se forcer à rentrer dans un moule de gens qui ne correspondent pas. Donc je vais un peu là où je me sens attirée.
C'est les résultats aussi de tes choix entrepreneuriaux d'être indépendante.
Oui.
Du coup,
mais ça a l'air très
tu ne te soumets
dit,
pas
je
pour
dis,
l'instant.
Mais... ça n'est pas si simple tous les jours. Des fois, il faut un peu faire des croix sur certaines choses, mais je pense que, peut-être qu'on attire ce qu'on dégage et vice-versa, et donc on décide de s'entourer bien, quoi.
Donc tes projets 2025, 2026, 2027, c'est continuer dans cette voie, continuer à innover dans le monde de l'art, continuer les art datings, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, oui, oui. Voilà,
continuer à collaborer avec Axel Delorme.
Exactement. D'ailleurs, on travaille beaucoup en duo, même avec Topo, pour mélanger nos points de vue.
Continuer à travailler avec Topo.
Voilà, continuer de travailler avec Topo, faire encore plein d'épisodes de podcasts en français, en anglais, pas de limite.
En italien, en espagnol.
Pourquoi pas ?
On sent cette grande ouverture et c'est très chouette.
il faut toujours dire pour l'instant. Oui, voilà. Et puis, continuer de faire des belles rencontres.
Bah, trop bien. Bah, je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que donc on t'invitera à notre soirée de célébration ou notre après-midi de célébration qui aura lieu en tout cas le samedi 22 novembre 2025. Okay.
Écoute, c'est suffisamment en avance pour que je save the date.
Donc, on espère que tu pourras save the date. On espère que tu pourras inviter Axel Delorme et puis tous les gens qui s'intéressent à votre travail. Voilà, j'ai été ravie de te rencontrer, de t'écouter et surtout de faire découvrir ton travail à nos auditeurs, à nos auditrices. Et je les encourage une dernière fois à aller écouter Innover dans le monde de l'art et puis peut-être à te suivre. Toi et Axel, vous avez des comptes Instagram, vous êtes aussi un peu présente sur LinkedIn. Et donc, à ne pas hésiter à te contacter aussi si des artistes peuvent être intéressés par rentrer en contact avec toi.
Ah oui, oui, avec plaisir. Très ouverte aux rencontres, comme je le dis.
Tu es une femme très gentille, donc qui n'hésite pas à te contacter.
Oui, voilà, c'est ça, exactement, qui n'hésite pas.
Bon, merci beaucoup et je te dis à bientôt.
Merci.
Cet épisode avec Lise de Quillac est diffusé le mardi 25 mars 2025. Voici les événements du mois où nous pouvons nous retrouver. Vérifiez les dates, horaires et adresses des événements sur Instagram et contactez-moi via la plateforme pour me faire signe si vous y allez. Le salon Drawing Now au Carreau du Temple est un salon que j'aime beaucoup, où je vais chaque année. J'y serai mercredi 26 mars pour le vernissage vers 17h. J'y retournerai le jeudi 27 mars vers 14h30 pour une conférence et j'y resterai un peu pour la performance de 16h. Le jeudi 27 mars à 18h, il y a le vernissage de Carla Querreta Roca au 42 rue du Cherche-Midi. Le vendredi 28 mars à 19h, il y a le vernissage des artistes de Maslow à l'hôtel Madison au 143 boulevard Saint-Germain. Le jeudi 3 avril, il y a l'exposition des artistes du cercle de la marraine Carla Talop à 18h au 6 rue Elzévir. Voilà tout ce que j'ai noté de mon côté pour mars-avril. Bien sûr, il y a 1000 autres événements artistiques dans Paris.
n'hésitez pas à me contacter pour me proposer de vous accompagner à ceux que vous avez repérés. Merci d'avoir écouté Galeriste. Chaque épisode est mis en ligne le dernier mardi du mois. Si ce projet vous plaît, vous pouvez m'aider à le faire connaître en en parlant autour de vous, en me faisant des retours pleins d'amour, en participant à nos événements et en réservant votre samedi 22 novembre 2025 pour le vernissage de l'œuvre. Je suis Mathilde Guégan, une peintresse engagée, et je vous envoie du love.